Semons le changement, un podcast pour défricher ensemble ces idées enracinées dans le milieu de l'agriculture urbaine à Montréal et tenter de planter quelques nouvelles graines. Nous discuterons des différents enjeux et tabous qui sont souvent passés sous silence pour initier la conversation et pour laisser la chance aux personnes concernées de s'exprimer dans un espace bienveillant. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Semons le changement, un podcast de l'Écho de la Pointe-aux-Prairies qui est un organisme à but non lucratif qui sensibilise, éduque et accompagne les gens dans leurs projets mobilisateurs en environnement. Je m'appelle Isabelle Garraud, coordonnatrice en agriculture urbaine et je laisserai mon invité se présenter.
Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Jetté-Léger. Je ne sais pas quel titre me donner. Dans le contexte du podcast, j'imagine que je suis aide maraîcher sur une ferme dans les Laurentides. J'ai commencé il y a quelques semaines, puis je pense qu'on est là pour parler de tout.
Aujourd'hui, on va parler dans le fond de l'exode urbain, qui est un phénomène que j'ai observé dans mon entourage, premièrement, donc à Montréal, tu sais, qui est surtout un phénomène d'un engouement, d'un désir de retour à la terre chez les jeunes adultes. Après ça, là, je sais que mon entourage, justement, tu sais, me ressemble très sûrement, tu sais. Justement, de mon côté aussi, j'ai chéri l'idée de me partir une petite ferme. Mais en faisant des recherches, j'ai pu confirmer que c'était pas juste moi, c'était pas juste mon entourage, mais que c'était vraiment quelque chose qui se voyait à travers le Québec. Dans les deux dernières années, il y a eu une augmentation considérable du nombre de nouvelles fermes maraîchères à s'établir au Québec, et j'ai l'impression que la pandémie a peut-être quelque chose à voir là-dedans, justement. Il y a aussi de plus en plus de subventions disponibles pour démarrer sa ferme. Je dis pas ça ici que c'est facile de les obtenir. Je dis juste qu'il y en a plus. Puis justement, en 2021, il y a 3 jeunes sur 10, selon un sondage, qui voulaient quitter leur emploi et 25% d'entre eux, elles, voulaient quitter sans avoir de plan B. Donc, selon moi, ça reflète aussi un certain désir d'épanouissement personnel et de meilleures conditions de travail. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui démarrent leur projet agricole. Donc, on va commencer avec les questions. Pourquoi, toi, tu veux partir ta ferme? Tu sais, c'est quoi les raisons qui t'amènent à réellement considérer cette option-là?
C'est une bonne question. En fait, en tant qu'introduction à la réponse que je vais essayer de te donner, je fais définitivement partie de cette statistique-là. Pas de ceux qui partent nécessairement à leur ferme récemment, là, dans la pandémie, mais j'ai définitivement quitté mon emploi sans avoir de plan B. Puis je pense que la raison pourquoi j'ai quitté cet emploi-là au tout début de la pandémie et la raison pourquoi j'aimerais me partir une ferme éventuellement sont un peu semblables, rentrent dans la même catégorie de réponses. J'appellerais ça le besoin de concret, le besoin de savoir pourquoi je travaille, le besoin de travailler pour une raison concrète, le besoin d'avoir un impact concret sur mon environnement, sur la communauté, etc. Je viens d'un passé informatique, administratif, etc., dans des tours à bureau avec l'air climatisé. Pas qu'il y a quelque chose de mal par rapport à ça, mais ça manque de concret. J'ai réalisé que j'avais besoin justement d'avoir un contact avec la nature, un contact avec l'humain, un contact avec l'environnement, un contact avec moi-même aussi, à travers mon travail. Et la raison pourquoi j'aimerais me partir d'une ferme éventuellement, c'est pour avoir ce contact-là, ce besoin concret et le contact concret avec toutes ces choses-là. Je pense qu'une ferme peut donner ça à ses propriétaires, aux personnes qui y travaillent. Cet aspect concret-là, là, je le répète beaucoup parce que ça va être quelque chose. C'est le thème principal un peu de la réponse que j'essaie de te donner. Là. Mais justement, je pense qu'une ferme maraîchère, ça donne une raison à ce que tu fais parce que la raison est claire, parce que la raison est simple aussi. Pourquoi tu travailles à la ferme? Pour nourrir ta communauté.
Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de très gratifiant et de très direct dans ce métier-là, justement. T'sais, tu plantes, tu vois les trucs pousser, tu vois tous les efforts que tu mets dans quelque chose.
Exactement.
Ouais, c'est ça, avoir un effet, puis à la fin, ben c'est ça, en plus, tu peux partager ça avec les autres et tout. Puis,
effectivement, ouais. Que si tu te rends vraiment jusqu'à la fin à vendre tes produits en kiosque, etc., ou dans les paniers, mais tu vois même les personnes qui vont les consommer, donc de la semence jusqu'à la consommation de tes légumes, il y a vraiment un impact très direct et concret avec ce que tu fais.
Ouais, puis tu sais, c'est ça, dans le fond, plusieurs, justement, s'imaginent, tu sais, ont un peu des rêves de ferme et tout, sans considérer que, comme, tu sais, toutes les conséquences, en fait, de cette vie-là. Tu sais, fermier, fermière, c'est un métier vraiment difficile. Il y a beaucoup qui disent que c'est une job de cœur, justement, parce que, tu sais, tu comptes pas ton temps, tu comptes pas ton investissement. C'est dur physiquement, c'est dur au niveau financier aussi, en fait. Tu sais, c'est pas tout le temps... ça paye pas tout le temps full. Tu sais, il y en a qui réussissent bien, mais d'autres, plusieurs que pas tant. Est-ce que tu as pensé à ça dans ta réflexion?
Je sais pas si j'y ai pensé assez. Parce que j'appellerais peut-être pas ça des conséquences, mais les challenges, au moins physiques, on les ressent beaucoup quand on vient de commencer. Comme j'ai dit un peu dans la brève introduction que j'ai commencé à travailler en tant qu'aide-maraîcher. Sur une ferme en Laurentides. Puis justement, ça fait même pas deux semaines que j'ai commencé... musculairement parlant, c'est difficile. au niveau de se lever tôt aussi, etc. C'est quelque chose que j'avais pas nécessairement eu l'opportunité de faire l'expérience avant. Donc justement, c'est un métier qui est très physique, qui demande beaucoup de repos en dehors des heures de travail aussi, et d'étirement, je le recommande. justement, c'est un des challenges, je pense, les plus directs, là. C'est de travailler avec son corps, puis de comprendre ses limites aussi, puis de comprendre comment bien travailler pour pas se blesser, puis pas avoir trop de courbatures, justement. L'impact financier, les difficultés financières, etc., ben c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté pour l'instant, mais évidemment que je peux un peu me projeter dans le futur et voir à quel point ça peut être un challenge. Quand tu parles de métier de cœur, justement, c'est quelque chose qu'on fait pas nécessairement pour l'argent, c'est quelque chose qu'on fait pour l'impact qu'on veut avoir. Donc, je pense que t'as absolument raison, là, que c'est un métier de cœur, puis que ça l'amène ces difficultés-là. Par exemple, au-delà des difficultés, ce que ça l'amène, c'est beaucoup de gratification, puis beaucoup de côté bénéfique. Je parle des difficultés physiques. Ben, du même côté, ça peut donner quelque chose de très gratifiant au niveau d'être fatigué de sa journée de travail, d'être épuisé, d'avoir travaillé avec son corps, etc., ben de se coucher vraiment fatigué le soir, après avoir travaillé une bonne journée à l'extérieur. C'est dur à expliquer, mais c'est super gratifiant, c'est super bien pour la santé mentale, même, j'irais jusqu'à dire, là. Ouais. On dort mieux, on se réveille mieux, on a plus le goût d'y retourner le lendemain.
J'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus rare, mettons, en général, que comme on se couche puis on est vraiment épuisé physiquement. en fait, pour tous ceux et celles et ceux-là là, qui ont des jobs de bureau, justement, qui restent assis toute la journée. Puis même si tu y vas en vélo à ta job, même si tu reviens en vélo, même si tu marches, même si whatever, t'es pas épuisé, ouais. Tu sais.
T'as quand même les plusieurs heures que t'as passées de façon sédentaire devant ton ordi, tu sais.
Ouais, c'est ça, tu sais. Puis après ça, il y a plein de problèmes aussi à cette sédentarité-là, en tout cas de travail de bureau, là, plein de problèmes physiques, mais en tout cas, on parlera pas de ça, là, mais...
on peut en parler, parce que, tu sais, les challenges physiques sont là, puis les bénéfices physiques sont là aussi, mais faut pas oublier l'aspect, justement, de rallier la connexion physique qu'on a avec son corps à travers le travail. C'est quand même quelque chose qu'on fait 8 heures par jour pour la plupart d'entre nous. Un travail à temps plein. Donc, d'être en contact avec son corps pendant 8 heures par jour, je pense que ça a des bénéfices, non seulement sur notre santé mentale, mais sur notre santé physique aussi. Je pense que c'est assez évident. Puis, à la place d'aller se payer un abonnement au gym ou d'aller faire un cours de spinning de 2 heures à chaque journée, parce qu'on a passé 8 heures devant un ordinateur, ben, en tant que fermier, fermière, en tant que personne qui travaille dans les champs, ben, ton workout est inclus dans ton travail. ce qui est quand même, selon moi, un bénéfice... Je pense que ben j'aime ça travailler physiquement, j'aime ça bouger. Je pense que n'importe qui aime ça bouger va apprécier le principe justement de pas avoir à séparer un peu son travail et son activité physique. Si les deux sont inclus ensemble, moi je trouve ça le fun.
Ouais, si on revient un peu sur le plan financier, tu sais, j'ai pensé à ça, puis tu sais justement le truc de job de cœur et tout, dans le communautaire, c'est la même chose là, fait que mon travail en ce moment c'est pas mal ça, tu sais, c'est beaucoup d'investissement pour une paye qui reflète pas nécessairement tout ton investissement, je vais le dire comme ça. Puis, tu sais, oui, justement, t'es passionné, oui, tu veux t'impliquer, oui, tu veux faire tout ça, reste qu'à un certain point, c'est le fun que ta paye, mettons, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois, reflète tous les efforts que t'as mis. Puis c'est pour ça aussi, je pense que comme, des fois, il y en a qui se lancent dans cette aventure-là de partir leur ferme et tout, puis qui sont peut-être un peu déçus du résultat, tu sais, de savoir que comme, leur job de bureau payait, je sais pas, 80 000 par année, parce que, on va dire, toi, t'es en programmation, tu sais, je sais que ça paye vraiment bien, tu sais, dans des grosses compagnies et tout. Puis là, après ça, tu te pars ta ferme, puis des fois, t'as la misère à joindre les deux bouts, puis tu sais, tu peux pas avoir le même lifestyle, le même rythme de vie. Ouais, ça peut être difficile, disons.
Ça peut vraiment définitivement l'être. Pour ma part, j'ai vraiment fait ce changement-là, comment je pourrais dire ça, de façon nécessaire. J'avais besoin de quitter l'environnement de travail dans lequel j'étais pour des raisons de santé mentale. Donc, c'est pas quelque chose qui a été comme débattu dans ma tête là, au niveau financier. Puis justement, le fait d'avoir eu le privilège d'avoir un job bien payé avant, ben ça fait en sorte qu'on peut coussiner un peu le changement. Mais pour certaines, définitivement que ça va être un challenge, surtout si on n'y a pas pensé d'avance. L'aspect justement d'être, entre guillemets, moins payé qu'avant. Puis là, on pourrait rentrer dans les clichés puis dire que, justement, cette gratification-là, le sourire de tes clients...
Ça n'a pas de valeur.
Le soleil, c'est ton salaire. Je pense pas qu'on a besoin d'entrer dans les clichés pour justifier ça. Par contre, c'est sûr qu'on a tous et toutes besoin de motivation pour travailler, même si on aime ce qu'on fait. La motivation peut venir d'un côté économique ou d'un côté autre, ou de mille et autres côtés. Donc, c'est à nous de choisir vraiment d'où vient notre motivation. Je pense que toute forme de motivation est valide. Quand on choisit cet emploi-là, définitivement que ta motivation va venir moins du côté financier que du côté humain, communautaire. Ouais. Environnemental, etc.
Après ça, je disais ça surtout, tu sais, je disais pas genre que, hey, ça paye pas beaucoup, partez pas partir à votre ferme, genre, non, restez chez vous. Vraiment pas, tu sais, c'est plus comme, tu sais, ça serait le fun qu'il y ait beaucoup plus de reconnaissance à ce niveau-là, que ce soit dans le milieu communautaire, justement, et ou, agricole, tu sais, en général. Il y a un petit peu plus, ça commence peut-être à...
Ben, avec les subventions, justement, dont tu parles, comme, tu sais, les propriétaires de la ferme à laquelle je travaille sont très ouverts là-dessus, puis ils me parlent un peu des subventions qui existent, puis tout ça, puis c'est quand même très substantiel. Là. Je pourrais pas les nommer, je pourrais pas dire les chiffres,
ouais,
je veux pas
non plus. Ça coûte beaucoup une ferme aussi.
N'importe quoi. C'est sûr, je dis pas que c'est ça l'équivaut, mais il y a des trucs qui sont là pour t'aider, puis ça, c'est vraiment accessible en tant que propriétaire, là, en tant qu'employé. Je les connais pas, mais je pense pas que tu subventions pour pallier à ton salaire. Parce que je pense qu'on s'écarte un peu du sujet, mais le point, c'est que l'argent, c'est une chose, mais je pense qu'on peut tout faire la part des choses puis aller chercher une motivation qui est peut-être un peu plus intrinsèque que extrinsèque. Puis que, en tout cas, pour moi personnellement, je peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, ça marche.
Où en sont tes connaissances en culture maraîchère? Parce que c'est ça, tu te dis que justement, cette année, c'était ta première job en tant qu'aide maraîcher. Après ça, tu sais, ça s'étend quoi justement tes connaissances?
On passera peut-être pas à travers mon CV, mais je peux peut-être te donner l'expérience que j'ai là-dedans. En fait, ce qui m'a fait un peu découvrir, du moins l'aspect professionnel de la culture maraîchère, c'est en faisant du bénévolat avec auprès de l'éco-pape, finalement. avec le merveilleux personnel de l'école de la Pointe aux Prairies. Dans les jardins du Cabanati, puis justement, je venais quelques fois, là, je suis venu quelques fois l'été passé, aller aider à tailler des plants de tomates, désherber, récolter, laver les récoltes, etc. Donc ça, c'était mon premier, la première proximité pratique que j'ai eue avec le métier. Après ça, justement, après avoir ouvert mon cerveau à ça, j'ai commencé à lire sur les cultures de légumes spécifiques. Puis c'est vraiment, je pense qu'à partir de certaines lectures, ça va vraiment débloquer sur toutes les connaissances nécessaires, toutes les connaissances possibles à avoir au niveau de la culture maraîchère, puis c'est vraiment des connaissances infinies, étant donné que chaque légume a vraiment ses spécificités au niveau de l'entretien, de justement éviter les ravageurs, comment les récolter, quand les récolter, etc.
Chacun a ses spécificités, mais aussi il y a des façons d'innover pour chacun, comme de ce plan-là aussi.
Ben, tu vois, mes connaissances vont pas jusqu'à l'innovation pour l'instant. Mais bon, pour répondre à ta question brièvement, parce que je pense que c'est un peu compliqué, là, j'ai quelques connaissances théoriques, j'ai quelques connaissances pratiques, puis je pose beaucoup de questions. Je pense que ça se résume à ça, puis d'être justement de travailler dans les champs tous les jours auprès des propriétaires de la ferme, parce que dans le fond, ils travaillent avec vous, là, quand peu importe où t'es dans l'espèce de hiérarchie simple d'une ferme, ben tout le monde est dans les champs à travailler un peu, tu sais. Quand je vois une mauvaise herbe que je connais pas, ben je pose la question de pourquoi on enlève. Quand on plante un chou d'une telle façon, je demande pourquoi on le plante pas d'une autre façon, tu sais. On se gêne vraiment pas sur les questions, pis c'est de même que j'apprends le plus. Je sais pas si ça répond à ta question.
Ben oui, c'est ça. En fait, c'était surtout pour, tu sais, montrer d'une certaine façon que, tu sais, t'es pas obligé d'être full calé pour avoir le désir de partir une ferme.
Ah non, définitivement.
Puis ça, pour pas que ça soit un projet sérieux, tu sais, ça peut être un projet sérieux même si tu, en ce moment, tu es en apprentissage, tu sais,
je veux dire. Puis je pense qu'on l'est longtemps en apprentissage. Ouais. Justement, à travers les discussions que j'ai auprès des propriétaires de la ferme où je travaille, ce que je comprends, c'est que tu fais tout le temps un peu l'essai-erreur. La culture, biologique, je sais pas comment dire, comme tu travailles avec ce que le soleil te donne puis ce que la terre te donne, c'est extrêmement complexe comme système au niveau de la science là. Donc t'as pas le choix de faire de l'essai-erreur, peu importe où est-ce que t'es rendu dans tes connaissances, que ça soit au niveau comme tu viens de commencer ou ça fait 7 ans que tu le fais. Je pense qu'il y a quand même plein de choses que tu peux pas vraiment savoir à 100%. Donc tes plantations, est-ce que tu les fais à 5 pouces l'un de l'autre ou 4 pouces l'un de l'autre, qu'est-ce qui va marcher le mieux, mais faut que tu l'essayes. Donc, en tout cas, pour ajouter à ton intervention, ce que je trouve pertinent là-dedans, c'est que non seulement t'as pas besoin de beaucoup de connaissances pour commencer nécessairement à t'y intéresser, mais t'arrêteras jamais d'apprendre puis tu seras jamais maître de ce que tu fais. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant puis je trouve ça très, très tentant comme défi.
Oui, c'est ça. Très bon pour les personnes qui, comme moi, se tannent vite.
Oui.
De tout ce qui est, en tout cas, travail et tout à faire en général, là, je me
Pour faire reflet à ça, je suis quand même assez similaire là-dessus, puis ça arrête pas, là, genre, il y a pas une journée que t'apprends pas des nouvelles choses.
Exactement. C'est ça, en parlant justement du sérieux de ton projet, malgré le fait que, justement, tu commences là-dedans, est-ce que t'as pensé un peu à l'approche que t'adopterais au niveau de la gestion de ta ferme? Puis là, ici, je vais m'expliquer un peu, tu sais, il y a plusieurs personnes qui semblent innover et ou utiliser des approches encore peu répandues, comme avec des coopératives, des modes de gestion non hiérarchiques, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses que ça serait ton approche?
C'est dur à dire, étant donné que dans ce processus de projet-là, j'en suis à l'étape d'essayer de mettre les mains dans terre pour voir ce que ça donne. Pour y avoir réfléchi un minimum, je pense que l'idée de la coopérative, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, non seulement pour l'aspect comme un peu idéologique de la chose, de partager non seulement ses connaissances, mais c'est littéralement ses récoltes. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau de la gestion d'une coopérative, étant donné que les fermes, ben, c'est rarement des petits terrains que tu récoltes tes trois rangées de carottes, là. C'est souvent des grands hectares, des dizaines d'hectares, que t'as à mettre les fonds pour acheter dès le départ. Donc, de se mettre à plusieurs, à plus que un, deux ou trois, donc, d'entrer là-dedans en coopérative, puis de se séparer la terre, de la gérer à plusieurs, d'avoir différents projets qui la gèrent différemment, puis faire de l'essai-erreur plus vite. Je pense que ça peut être quelque chose de super pertinent, intéressant. Donc la coopérative, c'est définitivement quelque chose qui m'intéresse. La culture biologique, comme avec ou sans certification, là, du moins les pratiques biologiques, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Je t'avoue que ce qui m'intéresse le plus, c'est d'y aller le plus simplement possible. Éviter les structures hiérarchiques, éviter la revente internationale, éviter les transports infinis de non seulement ce que t'achètes, mais ce que tu vends. Essayer d'encourager la communauté locale, essayer d'encourager l'agriculture locale, les semences locales. D'y aller le plus simple possible pour rendre ça non-ironiquement le moins compliqué possible. Étant donné que c'est un défi d'envergure assez poussée. Je pense qu'il y a beaucoup de pratiques qu'on peut faire pour simplifier le tout, pour éviter justement l'achat de machines, l'achat de tracteurs, qui coûtent des fonds assez dispendieux, là.
Ben c'est ça, tu parlais justement des fermes qui en ce moment, c'est genre des 55 hectares à vendre pour un prix en ce moment dérisoire, justement à cause de la crise, la crise du logement, en fait. Oui, excuse. Ouais,
au contraire.
Oui, à des prix complètement fous.
Faramineux.
Ouais. Tu sais, justement, puis tu sais que la crise du logement s'étend aussi justement juste au prix du terrain en général. Puis justement, je pense que tu sais les jeunes adultes qui veulent se partir leur ferme et tout vont essayer de favoriser peut-être cette coopérative là pour diviser les fonds, puis justement, puis de toute façon 55 hectares quand tu fais de la culture biologique puis tu veux pas faire de la monoculture, Bonne chance.
Il y a aussi effectivement que plus que tu as de terrain à gérer, ben plus ça va être compliqué à gérer. Tu vas avoir besoin de mécanisation, tu vas avoir besoin d'automatisation. Puis là, on s'éloigne de la simplicité que je recherche. Là. Donc, c'est abstrait un peu comme réponse à ta question, mais j'irais pour quelque chose de local, communautaire et simple.
En essayant, ben personnellement, moi, ça serait mon but si je partais ma ferme, là, en essayant que le tout soit abordable ou le plus possible, parce que tu sais, veux pas, tu veux que les populations locales puissent se nourrir de ton effort de travail, puis pas que ça soit juste
ouais, mais c'est l'objectif aussi,
mettons, le 1% qui qui en profite là. Mettons, ben c'est ça, tu sais, on parle depuis tantôt, puis j'ai l'impression que, comme justement, tu veux plus trouver un terrain à l'extérieur de Montréal. Pourquoi pas essayer de développer ton projet à Montréal, considérant qu'il y a plusieurs personnes qui démarrent des fermes urbaines? En fait, il y a plusieurs projets là qui émergent en ce moment à ce niveau-là.
Ben, je t'avoue que c'est par ignorance un peu de comment ça se ferait sur l'île. Je suis quelqu'un qui habite à Montréal, je suis quelqu'un qui adore Montréal, puis on a parlé des défis que ça apporte d'entrer dans ce mode de vie-là, là, de fermier-fermière. Ben pour moi, comme de quitter la ville, ce serait définitivement un défi, étant donné que c'est quelque chose que j'aime beaucoup puis que j'ai pas le goût de quitter. Donc, s'il y a des initiatives, des opportunités de cultiver un terrain de façon rentable à Montréal, c'est définitivement quelque chose qui m'intéresserait. Par contre, je suis pas au courant d'une ferme qui est ouverte au coin Saint-Denis-Villeray, donc... ça va attendre un petit peu pour ce projet spécifique-là. Je connais certaines initiatives d'agriculture urbaine. Je connais justement les jardins communautaires, etc. Mais pour vraiment... pas que ça, là. J'imagine qu'il y en a beaucoup plus.
Les jardins collectifs, entre autres.
Entre autres. donc, ouais, c'est plus par manque d'information ou peut-être manque de vision, parce que ces projets-là sont pas nécessairement mis de l'avant. Les terrains aussi sont peut-être plus compliqués d'accès. Je pense pas que tu peux juste acheter un terrain vague puis en faire une ferme. À Montréal, de ce que je connais un peu des besoins de la cause, ben faut que tu fasses des tests de toxicité. Faut probablement que tu payes des services de détoxification,
si c'est toxique,
des tourbages, ouais. Si c'est toxique, des frichages, etc. C'est pas des terrains qui sont déjà arables,
ouais.
De ce que je peux imaginer. Donc ça serait juste une question, tu sais, je sais pas c'est quoi ta question, je me rappelle plus, mais pourquoi on part pas ça à Montréal? C'est juste parce que ça serait plus compliqué. C'est quand même un projet d'envergure.
Ouais, c'est ça.
De rajouter cette complication-là, de compétitionner justement avec l'espace urbain. C'est quelque chose que j'imagine un peu comme un blocage.
Ouais, tu peux ajouter à ça, tu sais, justement la compétition avec les entreprises locales qui veulent des terrains pour juste comme asphalter tout ça, puis genre mettre, je sais pas moi, des commerces et tout. Mm-hmm. Puis c'est ça, dès que tu mets de l'asphalte sur ces terrains-là, ben après ça sont plus viables pour l'agriculture. Puis après ça, t'as des freins aussi par les institutions municipales, justement, tu sais, c'est pas aussi facile que juste genre je défriche ma terre puis je pars un potager. Tu sais, je veux dire, en tant que tel, les potagers de devanture de maison viennent d'être acceptés. Tu sais à quel point ça doit être compliqué de, genre, de juste faire une grosse ferme à la vue de tous et de toutes.
Mais c'est quelque chose, tu sais, idéologiquement, ça serait quelque chose de super trippant, justement, d'avoir quelque chose de rentable, de ouvert, je sais pas comment dire, mais imaginez une ferme dans le milieu de Montréal qu'on peut peut-être aller même visiter ou en auto-cueillette, quelque chose, je trouverais ça magnifique. Mais je sais pas, peut-être que je suis pas assez optimiste, je le vois pas venir dans mon... dans le court terme, dans les 10 prochaines années, là, ça serait le fun que oui.
Qu'est-ce que tu penses qu'un projet comme ça va t'apporter au niveau de ton développement personnel? Parce que c'est ça, là, on a parlé beaucoup comme du projet en tant que tel, de comme comment tu le voyais et tout, mais j'imagine que ton développement personnel est important là-dedans aussi. Ben, tu sais, c'est ça, t'as parlé de gratification et tout, mais quand même...
Ouais, ben, je pense que ma réponse serait la même à ta première question, puis à celle que tu me poses là. Dans le fond, la principale raison pourquoi j'aimerais me partir ce genre de projet-là, ça serait des raisons personnelles, pour des raisons de contact avec... moi-même, mon corps, l'environnement, la communauté, mon alimentation, l'alimentation des autres, etc. L'environnement, évidemment, par le fait même. C'est toutes des raisons, pour moi, assez intrinsèques de faire ce travail-là. Parce que ça rendrait tout ça concret, ça rendrait ça plus facile à comprendre pourquoi je travaillerais, ça rendrait ça plus sain au niveau de l'impact que j'ai avec l'extérieur. C'est toutes des choses qui feraient du bien à mon développement personnel. Encore une fois, pour des raisons peut-être un peu abstraites, mais... Ouais, tout.
Ça me fait juste penser, en ce moment, il y a Marianne à l'Écho de la Pointe aux Prairies, là, qui a fait des recherches, justement, sur une bactérie dans le sol qui ferait en sorte que quand tu la respires, ça dégage la sérotonine. Fait que, genre, au niveau, justement, tu sais, c'est pour ça que, comme, tu sais, mettre les mains dans la terre et tout, c'est pas juste le fun. Tu sais, il y a des raisons.
Scientifiquement.
Oui, c'est ça. Il y a des raisons scientifiques pourquoi c'est le fun et tout, puis pourquoi ça t'apporte autant de bien. Fait que, tu sais, j'imagine aussi qu'au niveau de ton développement personnel, ça va peut-être aider justement ta situation de santé mentale. Ben, en tout cas, tu parlais, tu sais, que quand t'étais dans tes emplois précédents, justement, il y a eu des problèmes de santé mentale et tout. Ben, ça va peut-être aider à ce niveau-là.
Au niveau scientifique et au niveau peut-être même plus spirituel, même, je dirais, jusqu'à dire. Mais bon, là, on s'écarte un peu du sujet.
Mm-hmm.
Ouais, au niveau développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup à ça, étant donné que non seulement t'as beaucoup à apprendre au niveau des connaissances maraîchères, mais t'as beaucoup à apprendre au niveau de toi-même.
Mm-hmm.
Quand t'as besoin de... Quand tu travailles aussi directement avec ton produit et les gens que ça touche.
Ouais. Est-ce que t'aurais un mot de la fin? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes qui, peut-être justement, se sentent un peu imposteurs dans leur... Tu sais, genre, qui veulent partir leur femme, mais qui connaissent rien là-dedans parce qu'en ce moment, ils font, je sais pas moi, de la communication ou du marketing ou, tu sais, des désirs de ton côté dans le cadre de ton projet, une vision à long terme, etc.
C'est large, une question.
Oui.
c'est drôle que tu mentionnes ça. Tu me fais penser comme, tu sais, s'il y a des gens qui seraient intéressés par ça puis qui ont pas nécessairement les connaissances spécifiques en maraîchage, mais qui ont des compétences en d'autres choses, ben, les fermes ont besoin de communication et de marketing. Donc, définitivement, qu'il y a eu moyen de rattacher les deux. Mais si vraiment le désir, c'est de switcher, de changer, de passer d'un à l'autre, je pense qu'il faut juste pas hésiter. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Physiquement, c'est sûr que ça demande une certaine adaptation pour n'importe qui, pour quelqu'un qui est déjà super actif ou quelqu'un qui l'est peut-être un peu moins. Il y a moyen de faire la transition parce que ça va être dur pour tout le monde.
Mm-hmm.
Je dis ça pas d'un côté défaitiste, au contraire, moi je trouve ça encourageant que tout le monde qui s'attend de le faire va passer par cette adaptation-là. Mais c'est accessible à tout le monde. Prendre une graine de la planter dans le sol, je connais personne qui est pas capable de faire ça. À tous les niveaux, là, où tu comme arroser un jardin, installer l'irrigation, désherber, etc. C'est toutes des tâches qui nécessitent pas, j'allais dire des études, pas nécessairement des études, mais ça nécessite pas des compétences spécifiques. Mm-hmm. Si t'as le goût de le faire, c'est sûr que tu peux le faire.
Ouais, par rapport à ça, tu sais, justement, j'aurais un conseil, désolé, je vais te voler la vedette. C'est deux correct. Secondes. Moi, j'haïs ça, les gens qui disent qu'ils ont pas le pouce vert. Parce que dans le fond, non, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, t'as pas le pouce vert parce que t'as jamais pratiqué, parce qu'on t'a jamais été introduit à ça, parce que plein de raisons, tu sais, puis c'est sûr que quand tu commences, tu vas faire plein d'erreurs, c'est juste que comme les gens qui sont bons aujourd'hui, ben, ils ont fait les erreurs il y a 10 ans, mettons, tu sais. Donc, ces erreurs-là sont déjà faites et tout. Donc, tu sais, n'hésitez pas à commencer, peut-être, tu sais, vous viviez dans un appartement, peut-être, à avoir des plantes d'intérieur, ou sinon, si jamais vous avez un balcon, d'avoir un petit potager sur votre balcon, juste comme pour vous introduire à la chose, voir premièrement si vous aimez ça pour vrai, tu sais, parce que même un potager sur un balcon, ça prend de l'entretien, puis ça prend un certain dévouement.
Ça prend la lumière aussi.
Ben, il y a des trucs qu'on peut faire pousser à la mi-ombre et tout, mais on va pas discuter de ça aujourd'hui.
On parlera pas de mes tomates de l'année passée.
Mais, tu sais, c'est ça, jardiner, c'est aussi faire des erreurs et tout, là, donc n'hésitez pas à commencer ça, voir si vous aimez ça, puis après ça, c'est ça, commencer à vous peut-être à faire du bénévolat dans des jardins collectifs, etc.
Voir juste d'offrir vos services, comme les fermes de maraîchage biologique sont en demande, là. Il y a d'emploi. Il y a de la place pour le monde, puis les personnes, les propriétaires, les fermiers, les fermières vont être ouverts et ouvertes à enseigner leur métier.
Mm-hmm.
Parce que non seulement ils aiment ça, tu peux pas être propriétaire d'une ferme puis pas aimer ça, ça ferait aucun sens. Donc ils aiment ça, ils vont vouloir t'en parler, ils vont vouloir vous expliquer. Ils vont vouloir vous enseigner, puis vous allez jamais être tout seul, en fait. Non seulement il y a un engouement, là, qui est peut-être la raison pour qu'on on enregistre le podcast aujourd'hui, ce fameux exode-là, mais vous allez pas être seul sur les champs, vous allez pas être seul à vouloir apprendre, vous allez pas être seul à essayer d'accumuler ces connaissances-là.
C'est ça, donc en agriculture, en général, y a pas d'imposteur, là, tu sais, il y a juste des gens qui veulent apprendre, puis tu commences juste à différents niveaux, là, tu sais, donc n'hésitez pas à juste vous lancer dans cette aventure-là d'apprentissage.
Voilà.
Parfait. Ben, merci beaucoup d'être venu au podcast.
C'est un plaisir.
Puis j'imagine que pour les auditeurs et auditrices, on se voit dans 2 semaines. Bonne journée.
Bye bye.
Retrouvez l'équipe de l'Écho de la Pointe aux Prairies et ses invités toutes les 1er et 15 du mois pendant la saison estivale. Merci de votre écoute.